là où les abeilles des étoiles piquent le ciel d'une ruche plus ardente que la nuit, là où le bruit de mes talons remplit l'espace et lève à rebours la face du temps, là où l'arc-en-ciel de ma parole est chargé d'unir demain à l'espoir et l'enfant à la reine. Aimé Césaire, après le périple, le terrible voyage de la migration, il y a l'arrivée. Et puis pour nous, il y a l'accueil. Je suis allée rencontrer à Rennes celles et ceux qui accueillent inlassablement les personnes qui arrivent jusqu'à nous. Il et elle témoignent de la possibilité de mettre en œuvre une hospitalité.
Bonjour, donc je m'appelle Armelle et je suis membre de l'association Un toit, c'est un droit. Donc c'est une association qui existe à Rennes depuis 2012. On a commencé au départ, à partir de 2009 à peu près, à être confronté à beaucoup de personnes à la rue, beaucoup de familles avec des enfants à la rue. Et à cette époque-là, on n'avait pas d'autre solution que d'ouvrir des squats pour les mettre à l'abri.
Bonjour, alors Jacques, à l'association Bienvenue, avec un point d'exclamation auquel je tiens, enfin nous tenons, c'est un réseau d'hospitalité à domicile pour demandeurs d'asile. Tous les mots sont importants. Le mot réseau pour dire que c'est le fait d'être ensemble qui fonde l'idée de l'association. Le mot hospitalité pour indiquer le fait d'accueillir, effectivement, pas de se contenter de s'occuper d'eux. Et puis, demandeur d'asile, ça montre le cœur de cible, si j'ose dire, de l'association.
Marité, donc je suis adhérente dans les deux associations, Un toit c'est un droit et Bienvenue. J'ai accueilli chez moi des demandeurs d'asile.
Comment ça se passe, l'accueil des personnes migrantes? Vous avez commencé à le dire, il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens arrivent en France. Comment ça se passe?
La majorité des gens arrivent avec l'intention de demander l'asile. Donc ils se présentent à la préfecture, leur demande d'asile est enregistrée et à partir de là, ils ont un droit, ça fait partie du statut de demandeur d'asile, d'être hébergés dans des centres spécialisés pour les accueillir toute la durée de leur demande d'asile, jusqu'à ce qu'ils aient une réponse. Nous, quand on a commencé dans les années 2009-2010, là, les gens, pendant leur demande d'asile, avaient énormément de mal à se faire héberger par l'État. Ça se passe un petit peu mieux maintenant. Il y a eu un gros effort de fait qui est encore insuffisant parce que les places sont insuffisantes. Alors, pour plusieurs raisons, l'État explique, et il n'a pas tort, que en raison du nombre important de personnes qui sont arrivées demander l'asile ces dernières années et qui ont obtenu l'asile. Ces années-ci, les gens qui arrivent viennent de pays où la situation est très 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 difficile et où on leur accorde facilement l'asile parce que la situation de leur pays est connue, est catastrophique. Ils obtiennent le statut. Et donc, ils ont des papiers, ils ont droit au travail, ils ont droit à un logement. Mais il faut réussir à satisfaire cette demande. Et donc, ça devient compliqué d'intégrer dans le droit commun les gens qui ont obtenu le statut. Et donc, on ne peut pas les mettre dehors. Donc, ils restent dans les foyers prévus pour les demandeurs d'asile. Et du coup, ça engorge le système. Ça, c'est l'arrivée. Ensuite, la demande d'asile, elle se termine. Positivement, c'est ce que je vous disais tout de suite, ces gens-là resteront en France. Ils ont le droit de vivre ici, ils ont des papiers, ils ont droit au travail. Il faut du temps pour qu'ils apprennent la langue, pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils trouvent un logement. Maintenant, il y a la majorité des gens qui n'obtiennent pas le statut. Et ces gens-là, si leur motivation ne rentre pas dans les statuts, ils ont quand même une raison très forte d'avoir quitté leur pays. Parce que personne ne quitte son pays sans raison très, très, très forte de partir. Et donc, quand on leur dit « non, vous ne serez pas réfugiés », ils souhaitent rester en France. Et à ce moment-là, ils n'ont plus de droit au logement. Il reste l'hébergement au 115. Et l'hébergement du 115 est notoirement insuffisant. Et donc, les gens restent à la rue. Et il y a aussi les Dublins.
Alors, Dublinais, ça vient du fait qu'il y a une convention qui a été signée entre les États européens à Dublin, c'est pour ça que ça s'appelle Dublinais, plusieurs conventions d'ailleurs successives pour organiser les flux de demandeurs d'asile à l'intérieur des États de l'Union européenne, enfin de l'espace Schengen, c'est à peu près la même chose. En gros, la convention de Dublin prévoit que la demande d'asile de quelqu'un qui arrive sur l'espace Schengen doit être faite dans le premier pays par lequel il pénètre sur cet espace Schengen. Beaucoup de gens arrivent par l'Italie ou par la Grèce, ou par la Pologne, par exemple. Et donc, ça prévoit que le pays chez qui on trouve un demandeur d'asile, mais dont on peut prouver qu'il est passé avant à tel endroit, on le renvoie normalement dans ce tel endroit pour faire sa demande d'asile. En soi, c'est quelque chose qui surcharge les pays les plus près de frontières extérieures. Donc c'est pas très équilibré pour l'Europe en tant que telle. De surcroît, ça fait des gens qui, en général, n'ont pas très envie de... Ils sont venus jusqu'en France et ils ne se sont pas arrêtés en Italie, en Pologne, en Grèce. C'est probablement qu'ils avaient des idées sur la France ou des gens qu'ils connaissaient en France ou des choses comme ça. Donc ce processus Dublin, il revient à réarracher une deuxième fois les gens à l'endroit où ils souhaitaient être. Donc beaucoup le refusent. Alors jusqu'à présent, il y avait une règle qui était si on vous a rien fait de particulier pendant 6 mois, l'histoire de Dublin tombe, vous pouvez poser votre demande en France. Et si vous avez commencé à faire quelque chose et que vous ne vous êtes pas présenté à la préfecture pour la suite de la démarche parce que vous craignez d'être envoyé, il faut attendre 18 mois. Ça, c'était le principe jusqu'à présent. C'est déjà assez lourd parce que ça veut dire pendant 6 mois ou pendant 18 mois se planquer. Hein. Et il vient d'y avoir une loi à l'initiative d'un député LR qui prévoit qu'on peut mettre en rétention ces gens. Alors qu'en fait, même s'ils sont dans une procédure qui est régie par cette Convention de Dublin, ils sont d'abord des demandeurs d'asile. Et par conséquent, ils devraient être protégés par la France et pas renvoyés ailleurs. Donc, et encore moins mis en centre de rétention, donc carrément, quasiment en prison, pour le simple fait qu'ils sont dublinés. Donc on se retrouve là avec un système dont je ne sais pas quel va être le devenir juridique, parce qu'apparemment il est attaqué au Conseil constitutionnel, mais c'est un symbole de la façon dont certains législateurs en particulier prennent les choses, c'est-à-dire par l'enfermement, du renvoi, au lieu de voir d'abord l'accueil et l'examen approfondi de la demande d'asile. Un certain nombre d'associations, et en particulier celles qui sont dans une procédure qui est en train de se lancer, qui s'appelle l'État général de la migration, souhaitent la fin de la Convention de Dublin.
Et si les gens sont arrivés en France, c'est pas par hasard. Ils sont passés dans un autre pays, ils ont fait le choix de venir en France, et souvent, ils ne veulent pas aller dans le pays auquel ils sont destinés. Et beaucoup d'entre eux font le choix de disparaître, de ne pas se présenter au rendez-vous, de ne pas prendre l'avion, et de rester en France. Et là, ils se trouvent face à une période de 18 mois, pendant lesquelles ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas encore droit aux avantages des demandeurs d'asile. Ils ont le même statut que toutes les personnes sans papier en France et ils doivent survivre pendant 18 mois. Donc ceux-là aussi ont des énormes difficultés en termes de logement.
Oui, ben, Bienvenue a donc été fondée avec l'idée justement d'offrir à des demandeurs d'asile un répit, un repos, c'est comme ça qu'on le dit, dans une démarche qui est longue, difficile et où un certain nombre d'entre eux sont effectivement pas logés. Pas pris en charge par les structures officielles. Donc l'idée, c'est du coup d'ouvrir nos maisons pour un temps déterminé, un mois renouvelable deux fois pour aller vite, et ceci une fois, si j'ose dire, parce que si on ne peut pas reprendre des gens, sinon on ne s'en sortirait pas. On n'est quand même pas... on a certes un certain nombre de lieux, un certain nombre de gens qui nous suivent, mais ça ne suffit pas pour répondre à l'ensemble des demandes. Mais nous espérons que ces 3 mois soient l'occasion de se fortifier pour les gens qui sont là, pour ne pas perdre espoir, pour repartir de chez nous mieux armés, des choses comme ça.
Donc le réseau Bienvenue, une fois que les personnes ont passé leurs 2 ou 3 mois dans une maison, dans un logement, comment ça se passe? Est-ce que vous continuez de les voir, de les accompagner, est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas?
Officiellement, il n'y a rien de... Enfin, disons, dans notre démarche telle qu'on l'a mise en place, c'est 3 mois et c'est 3 mois, point. Bien entendu, c'est très rare que ça soit comme aussi sec que ça, parce que pendant ces 3 mois, il y a des liens qui se nouent. Il y a un certain nombre de gens avec qui on garde des liens, Il y en a d'autres qui disparaissent dans la nature qu'on ne voit plus. Hein. C'est chacun qui a sa liberté aussi de continuer à s'attacher ou pas aux personnes qui l'ont accueilli. Alors, il y a dans notre façon de faire, il y a aussi le fait que nous attribuons à chaque personne accueillie un accompagnant qui, au moins, fait le lien entre la personne et, disons, l'agglomération rennaise, un petit, de façon un peu large. Et c'est vrai que l'accompagnant, souvent, il a encore des idées sur ce qu'est devenu un tel ou un tel plusieurs mois après le départ de Bienvenue.
Comment ça se passe d'accueillir une personne migrante ou un demandeur d'asile chez soi ?
Alors moi, j'ai accueilli en urgence un couple et leur fils de 20 et quelques années qui dormait sur le carrelage de l'hôpital, qui était dehors. Donc ils sont venus d'abord cas à cas en fonction des hébergements du 115. Et ensuite, je les ai hébergés pendant un an chez moi pour leur permettre... Bienvenue n'était pas... Il n'y avait pas de statut. Bienvenue n'avait pas encore créé ses statuts à ce moment-là. Et donc j'ai hébergé plus longtemps que les 3 mois. Et c'est devenu des amis. Donc c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup et il y a des liens maintenant avec plusieurs couples avec des enfants arméniens et avec mes petits-enfants.
Oui, moi j'accueille régulièrement des gens à la maison, effectivement. Jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé, mais effectivement, c'est exigeant en termes de partage de la cuisine, par exemple. On a tout le temps quelqu'un, on n'est jamais seul chez soi. Et à côté de ça, ben, y a des liens qui se font, encore une fois, plus ou moins forts suivant les gens qu'on accueille. Globalement parlant, je dirais bien, j'espère que les auditeurs vont me croire, ça se passe bien, les accueils. C'est plutôt sympathique d'une part et puis enrichissant d'autre part. Maintenant, ce n'est pas complètement improvisé, c'est-à-dire que nous avons à Bienvenue un contrat type qu'on signe entre l'accueillant et l'accueilli. Et ce contrat, donc, diffère d'une maison à l'autre, parce que les conditions d'accueil ne sont pas forcément les mêmes d'une maison à l'autre. Bon, après ça, une fois ça mis en place, ça se passe bien. Bienvenue a quand même un œil dessus à travers quelqu'un que nous appelons médiateur, qui est là à la signature du contrat et à qui on peut faire appel si les choses... Encore une fois, c'est arrivé peut-être 3 fois en 5 ans sur... on en est à plusieurs dizaines, voire centaines d'accueils. Les fois où ça se passe mal se comptent sur les doigts de la main, donc...
Est-ce que vous avez un conseil musical ou une musique à partager avec les auditeurs ?
Alors moi, j'ai fait connaissance grâce aux Arméniens à la musique d'un instrument qui s'appelle le doudouk. Et voilà, donc vous aurez l'occasion de l'écouter peut-être dans l'émission.
Thank you. Alors, si on revient un peu aux deux associations, Un Toit, C'est un Droit et le réseau Bienvenue, quelles difficultés vous rencontrez chacune dans vos réseaux pour mettre en place vos actions?
On est très complémentaires. Nous, on fonctionne de façon différente. C'est-à-dire qu'on a des lieux qu'on confie aux familles où elles vivent de façon indépendante dans un logement qui est souvent tout petit. C'est souvent une chambre pour une famille, mais c'est chez elles. Voilà, le souci qu'on a, c'est qu'on est extrêmement sollicité. Et là, on n'y arrive plus. Du fait de notre nouvelle pratique où on essaye de signer des contrats et de faire les choses légalement, ça limite très fortement le nombre de places dont on dispose, alors que la demande à l'extérieur est toujours aussi forte. Ensuite, il y a une partie de vie dans les lieux. Alors, c'est pas chez nous, mais c'est quand même des lieux où on va beaucoup. On est très présent dans les lieux, on crée des liens forts avec les gens aussi. On crée des liens très très forts avec eux, mais on sait qu'un jour, le lieu, il va fermer, parce qu'on nous l'a confié pour 6 mois, pour 1 an. Et on sait qu'il faudra repartir, trouver des nouvelles solutions, ou pas. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un jour, on dise à une famille, bah, écoute, voilà, on t'a logé 1 an, mais là, on ne trouve plus rien, on ne sait pas comment faire, on n'a rien à te proposer. Parce que les temps dont on dispose, nous, sont beaucoup plus courts que la durée des problèmes que les familles rencontrent. Les familles, elles peuvent être en difficulté pendant des années.
Au début de l'action d'Un Toit, C'est un Droit, vous ouvriez des squats et vous ne le faites plus maintenant. Pourquoi ?
Bah, on ne le fait plus parce que quand même un squat, c'est illégal et que ce n'était pas très facile à vivre d'être tout le temps dans l'illégalité. En même temps, faire les choses légalement, ça veut dire aussi sensibiliser des mairies, que des élus s'engagent, mettre des lieux à disposition. C'est quand même une chose qui est très intéressante. Le mauvais côté, on peut dire, c'est qu'on est beaucoup moins libre. C'est-à-dire que quand on ouvre un squat, on le gère comme on veut. Et si nous, on estime que dans ce squat, on peut faire vivre 60 personnes, ben, il n'y a personne qui nous l'interdit. Alors que dans les conventions, c'est toujours les gens qui nous confient les lieux posent des conditions. Par exemple, en ce moment, on gère 3 maisons. On s'est arrêté sur le nombre de 12 personnes par maison. Nous, on est très, très, très tentés de mettre beaucoup plus de monde parce qu'on voit bien qu'il y a des pièces vides et ça nous insupporte de voir des pièces vides alors qu'il y a des familles à la rue. On s'est engagé, on tient notre engagement. Mais on voit bien qu'à ce rythme-là, on ne répond pas à la totalité des besoins. Donc la tentation de se dire « allez, on repart sur un squat », elle est toujours présente parce que la pression est trop forte, quoi. Donc voilà, on est sur cette position-là en ce moment, on reste dans la légalité, on travaille pour étendre notre réseau, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Alors côté Bienvenue, on a d'abord le paysage est le même, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une demande forte et on n'arrive pas, nous non plus, à satisfaire l'ensemble de la demande. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de constater que chaque mois, on a des familles qui nous appellent en disant « Voilà, nous avons bien réfléchi, nous souhaitons accueillir, comment fait-on » Et en gros, tous ces derniers mois, il y a entre 1-2 familles par mois supplémentaires qui rejoignent l'association. Donc c'est vrai que ça nous rend heureux, disons, et puis ça favorise un petit peu les choses. N'empêche que c'est toujours aussi difficile de savoir faire le tri, si j'ose dire, de faire des hiérarchies, de faire tout ça. C'est vraiment pas facile comme système. Nous, comme on travaille sur des mois, en fait, chaque mois, on regarde comment ça peut se passer le mois suivant. On a très peu de lieux qui sont adaptés à des familles. Donc les familles, souvent, elles attendent. On en prend une par mois ou quelque chose comme ça. Bon, et puis, encore une fois, c'est 3 mois. Donc il faut aussi, de l'autre côté, on essaye de voir au mieux la sortie. Quand même, malgré tout, dans la grande majorité des cas, ça veut dire qu'on les rend au 115, si j'ose dire. On a un accord avec le 115 qui a bien marché toute l'année 2016-2017, mais qui coince actuellement, parce qu'eux aussi ont des problèmes, où les gens, en sortant de chez nous, avaient une semaine d'accueil au 115 inconditionnel, je dirais bien. Même ça, on ne l'a plus. Ce qui veut dire que le dispositif est bloqué, c'est officiel. La ville de Rennes fait de gros efforts pour loger les familles avec enfants, mais elle aussi n'a plus assez de place dans ce qu'elle maîtrise pour que toutes les familles avec enfants soient effectivement à l'abri.
Justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut avoir au minimum pour pouvoir proposer d'accueillir chez soi ? Qu'est-ce que vous attendez ?
Alors, on attend un minimum, c'est-à-dire un lieu autonome pour dormir et l'accès au sanitaire, évidemment, et l'accès à la cuisine. Donc ça, c'est le minimum. Il y a un certain nombre de gens qui ont mieux que ça, si j'ose dire, parce qu'ils ont aménagé leur sous-sol pour leurs enfants et qu'il y a un endroit où il y a à la fois une chambre, les aspects sanitaires et un coin cuisine. Bon, c'est vrai que ça, c'est l'idéal. Quand en plus, on peut mettre un lit double et un berceau, c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup. Encore une fois, c'est un peu un minimum parce qu'il faut quand même que les gens qu'on accueille se sentent un minimum chez eux aussi, qu'ils ne soient pas seulement chez nous. Beaucoup de gens, quand même, ont cette possibilité. Alors, deux limites. Une limite qui est géographique, c'est-à-dire que pour des raisons de transport et de nécessité pour les migrants en général d'aller assez fréquemment à Rennes, on ne prend pas dans le dispositif général des lieux qui soient hors de Rennes Métropole. Les gens qui sont à l'extérieur de Rennes Métropole et qui proposent des lieux, on leur propose un système d'accueil pendant les vacances scolaires, parce que souvent à ce moment-là, la nécessité d'aller à Rennes est moindre. Et par conséquent, pour 15 jours, être hors de Rennes Métropole pose moins de problèmes. Et à l'inverse, ça permet aux gens qui accueillent toute l'année d'avoir un moment où, par exemple, un grand enfant peut venir pendant les vacances. Donc ça, c'est une première limite. L'autre limite, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient nous aider et qui n'ont pas la place. À ce moment-là, nous, on a ce qu'on leur propose, et souvent ils acceptent, c'est le rôle d'accompagnant.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu des lois qui sont en ce moment discutées, débattues au sein du gouvernement sur l'accueil des personnes migrantes ? Quelles questions sont posées par les lois qui sont proposées et quels sont les débats qu'on entend ?
Oui, alors là, je vais peut-être m'exprimer plus à titre personnel qu'à titre de l'association. Il y a une espèce de logique de plus en plus répressive et sélective. Et là, si on regarde l'ensemble des mesures proposées, il y a une ou deux mesures qui peuvent paraître intéressantes. Par exemple, le fait que ceux qui auront accès à la protection subsidiaire, qui est une catégorie inférieure à l'asile mais qui permet de rester en France, auraient une carte de séjour de 4 ans et plus d'un an comme maintenant. Ça peut être considéré comme une avancée. De même qu'on parle du fait que les familles aient des réponses groupées, alors qu'actuellement, par exemple, on a le cas d'une famille qu'on nous propose, dans laquelle la fillette de 6 ans a l'asile, pas sa mère. Et donc, il faut faire un deuxième dossier pour la mère. Voilà. Donc ça, peut-être que c'est, s'il y a quelques avancées de ce côté-là, on ne trouvera pas ça mal. Il y a des décisions qui paraissent clairement répressive. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire des Dublinés. Ce n'est pas dans la loi, puisque c'est déjà passé à l'initiative d'un député LR. Mais il y a des positions du même ordre, c'est-à-dire des positions purement répressives, avec un maximum de mise à l'écart, de passage en rétention, de passage en assignation à résidence, et des choses comme ça. Et entre les deux, il y a des mesures très ambiguës. Un exemple. Le gouvernement promet de raccourcir les délais. Alors c'est vrai que quand on voit les délais auxquels sont confrontés actuellement les migrants pour la moindre démarche, tous les délais peuvent être très longs. Donc raccourcir les délais, dans un bon nombre de cas, ça serait plutôt une bonne chose. Mais si raccourcir les délais veut dire qu'on n'a pas le temps de déposer un recours contre une décision qui vous frappe, parce que le délai est devenu trop court, parce que rassembler des pièces pour pouvoir faire un dossier, ça ne tient pas en 15 jours, eh bien ça veut dire qu'on fait le choix de renvoyer pour des raisons soi-disant juridiques des gens à qui on n'aura pas donné la possibilité de se défendre. Et ça, franchement, c'est inacceptable. Donc, porter un jugement sur l'ensemble du dossier est très difficile. Ce qui est sûr, c'est quand même que c'est une certaine idée de la France, comme dit l'autre, hein, qui est portée par ce dossier et qui s'opposerait à laquelle un certain nombre d'associations bienvenue les autres, là pour le coup on serait d'accord pour s'opposer au nom d'une conception ouverte du pays. Il y a 100 000 demandes d'asile présentées par an, quelque chose comme ça. Est-ce que vraiment un pays de 65 millions d'habitants est incapable d'accueillir 100 000 personnes par an? C'est, malgré tout, c'est quand même... Enfin, si on met ça en pourcent, on voit bien que c'est pas grand-chose. Là-dessus, on voit bien quand même qu'il y a actuellement... on est dans une pensée politique qui est plutôt dans la limitation que dans l'accueil. Alors, on ne dit pas qu'il faut un accueil inconditionnel, encore que ça pourrait se... Enfin, il faudrait voir ce que ça donne, si j'ose dire. Mais mettre des barrières, refuser que les gens viennent et du coup les faire venir par des systèmes compliqués avec des passeurs, des trucs, des dangers, etc., c'est à mettre en balance, me semble-t-il, avec l'idée qu'il faudrait fermer. Il faudrait fermer. Je ne crois pas que... Mais là, encore une fois, c'est un peu à titre personnel. Bienvenue fait partie des associations qui soutiennent au maximum des revendications sur un accueil inconditionnel à Rennes, 24 heures sur 24, 7 jours par... 7 jours sur 7, parce que c'est vraiment... On voit bien que c'est important actuellement. Les gens sont à la rue, donc il faut bien qu'ils trouvent des systèmes. Mais le jugement politique ne nous appartient pas en tant qu'association. Mais un certain nombre de gens de l'association partagent ce que je viens de dire, je pense.
L'inquiétude, c'est en dehors de la difficulté du parcours qu'ils ont affronté pour venir, des dangers, des morts en Libye, dans la Méditerranée, en dehors de ça, c'est aussi le problème de la misère qu'on crée dans nos rues. C'est-à-dire qu'on fait des lois qui n'accueillent pas, qui ferment, comme dit Jacques, mais... La migration fait partie de l'histoire de l'humanité. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et il y en aura de plus en plus. On sent bien que le monde est petit maintenant. C'est facile de voyager d'un pays à l'autre. Et que nous, on considère que c'est une excellente chose pour nos jeunes, à nous, d'aller à l'étranger quelques mois, quelques années. Ça va leur ouvrir l'esprit, tout ça. Mais qu'on n'accorde pas aux autres le droit de faire la même chose. Que ce sera extrêmement difficile de l'empêcher. Mais que le prix à payer tout ça, c'est la misère dans nos rues. Parce qu'une fois que les gens sont là et qu'ils disent « je suis là et je ne partirai pas », ils vont survivre. Mais ils vont survivre comment ? L'idée du gouvernement, c'est en gros leur rendre la vie impossible. Leur dire « bon, nous, on n'arrivera pas à vous expulser, mais on va vous rendre les conditions de vie tellement difficiles que vous allez avoir envie de partir de vous-même ». Et de fait, ça ne fonctionne pas. Non, on peut juste constater que dans bien des cas, les associations font un travail énorme. Les bénévoles fournissent des heures et des heures et des heures de travail, alors qu'il y a des travailleurs sociaux au chômage par centaines. En acceptant le fait que les migrants sont là et seront là, il y aurait de nombreux postes à créer pour que l'intégration se passe encore mieux. C'est-à-dire que les associations font beaucoup, mais elles ont aussi des limites et qu'il faut que l'État prenne les choses en main.